l'association Latitude Contemporaine présente son 5e festival. De nombreux spectacles sont à découvrir. Norvège, Belgique, Espagne, Portugal. Les jeunes créateurs viendront de tous les horizons. Rendez-vous du 14 au 23 juin à Lille et Roubaix. Informations et réservations au 03 20 55 18 62 ou sur www.latitudecontemporaine.org.
Radio Campus 106,6, nous sommes très heureux d'accueillir Maria Carmela Mini. Bonjour Maria Carmela.
Bonjour.
Donc pour nous parler, faire un bilan d'étape, on va dire, du festival Latitude Contemporaine qui est maintenant bien engagé.
Tout à fait, oui.
Donc de nombreux spectacles sont au programme, certains ont déjà été présentés au public. Qu'est-ce qui fait cette année? Quelles sont vos impressions sur ce début de...
Plutôt bonne, plutôt très bonne, parce que je pense que le public commence à s'habituer à avoir des formes nouvelles, on va dire, et une certaine exigence de travail. Hein, et donc on a face à nous un public de plus en plus s'intéresse à justement des formes un peu différentes de ce qu'il a l'habitude de voir. Donc pour nous c'est très bien, et en plus ce public s'agrandit d'année en année, et donc c'est aussi preuve que ce festival va bien.
Alors du côté des invités, des compagnies invitées, on peut dire que les compagnies viennent de différents endroits de France et du monde.
Tout à fait, oui.
Pour présenter des spectacles assez pointus, on va dire.
Oui, on peut dire pointus, mais aussi je pense avec, pour certains, beaucoup de poésie, si je pense à la soirée d'hier soir. Mmh. Donc à la fois exigeant, pointu peut-être, mais aussi... avec un fort degré d'humanité, j'ai envie de dire. Et donc peut-être c'est aussi ce qui fait que le public est, j'ai l'impression, un peu plus touché que d'habitude, parce que c'est vrai qu'on a de très très jeunes artistes, beaucoup plus jeunes que les années précédentes, et le public est assez touché par cette jeunesse, je trouve, et en même temps par les formes qu'ils proposent, qui sont très touchantes, dans la mesure où les gens parlent beaucoup d'eux, non pas eux comme quelque chose d'égocentrique, mais eux dans ce qu'ils peuvent avoir de grandeur d'âme, j'ai envie de dire, et puis de nous permettre quasiment, nous spectateurs, d'entrer dans leur intimité, dans ce qu'ils ont de plus cher ou de plus singulier en tous les cas.
Donc hier soir, c'était en première partie Claudia Dias, qui vient du Portugal.
Oui, absolument.
Et qui a dressé un portrait en même temps d'une ville, ses impressions, mm-hmm. ses états d'âme. Ça s'est installé progressivement sur le plateau avec les éléments assez simples qui lui ont permis de construire à la fois le décor, l'environnement, aussi d'image de la ville qui est la ville de Lisbonne.
Tout à fait, oui.
Et puis aussi cette réflexion, on avait l'impression en même temps de plusieurs histoires, comme si c'était des chapitres d'un livre en même temps.
Absolument. Oui, toute la force de ce spectacle, c'est qu'à la fois Claudia nous permettait de rentrer dans son intimité, vraiment quelque chose de très très personnel, à la fois par à travers son vécu amoureux par exemple, ou son vécu à travers une ville dans laquelle elle a déambulé, des histoires que des proches, des amis à elle lui ont racontées. Donc on nous permettait de rentrer dans cette intimité forte, et en même temps elle mettait en perspective tout cela à travers l'histoire de son pays. Alors à la fois l'histoire architecturale, comment cette ville s'est construite, mais également son histoire politique. Et c'est vrai que le Portugal a une histoire politique très chargée.
Voilà, donc, avec tout ce lien avec l'Afrique,
absolument,
notamment, donc la colonisation qui était... finalement aussi très présente à la fin,
oui,
notamment.
Hein. Tout à fait, oui, oui. Et c'est vrai qu'elle nous permettait de faire ce lien avec toute l'histoire du Portugal par sa vie personnelle et puis également les faits politiques. C'est vrai que le Portugal a été sous une dictature jusqu'à encore il y a très peu, donc et c'est un pays qui est en pleine évolution, en pleine mutation, et que cette mutation n'est pas encore terminée, hein, même si je crois que ça fait 30 ans, environ 30 ans que la révolution est arrivée, mais on sent encore, et moi qui suis une amoureuse de Lisbonne qui va régulièrement, c'est vraiment, quand on est dans cette ville, on a vraiment ce sentiment de mutation, et c'est ça qu'elle nous raconte dans le spectacle.
Alors c'est vrai que c'était un beau moment, à la fin elle a expliqué un petit peu sa façon de travailler, et que finalement les éléments qu'elle avait choisis, notamment le texte, ça s'est fait comme ça, des choses finalement, des histoires assez sombres, assez intérieures, avec des drames derrière. On a l'impression que le Portugal n'est pas encore bien au clair quant à son devenir.
Tout à fait. Bon, il y a une difficulté économique très grande, mais même si ça va beaucoup mieux parce qu'elle a été très très aidée par l'Europe. Hein, ça fait partie des pays qui ont été le plus aidés dernièrement. Donc, d'où aussi cette mutation. Mais quand je parle de mutation, c'est aussi une mutation d'architecture. Il y a des travaux partout. Donc, et je pense que dans les esprits aussi, tout va de pair. Hein, et ce qui est assez intéressant quand on y est, c'est qu'il y a un réel décalage entre les générations, c'est-à-dire que une personne qui a 60, 70 ans et une personne qui en a 20, ils n'ont pas vécu la même chose du tout. Et on a l'impression vraiment de mondes qui apprennent, enfin qui essayent de se comprendre et d'évoluer ensemble. Et c'est vrai que c'est assez fascinant. Et puis, je pense qu'il faudra quand même plusieurs générations encore pour que tout le passé de dictatorial et de colonialisme aussi puisse un peu en tous les cas s'éclairer, enfin, ou devenir quelque chose de qui est digéré par la population, ce qui n'est pas le cas encore, c'est vrai. Oui.
Alors, ce spectacle Visite guidée, finalement, était un spectacle très bavard par rapport à celui qui a suivi, un huitième d'Emmanuel Egarmont.
Tout à fait, oui. Alors, en fait, c'était pas fait exprès, mais je m'en suis rendu compte en cours, comme quoi un programmateur n'est jamais toujours tout à fait conscience de ce qu'il est en train de fabriquer. Même si mon travail, c'est d'essayer d'être lucide justement sur ce qu'on propose aux spectateurs et de trouver les plus grandes cohérences possibles. Mais je me suis rendu compte, mais vraiment pendant le spectacle de Claudia, puisque Claudia passait dans un premier temps et puis Emmanuel Egarmont ensuite. Qu'en fait, on avait affaire à un spectacle très féminin, avec justement une femme qui parle de son intimité, qui parle de son parcours à travers une ville, à travers une histoire, avec quelque chose de très presque sensuel, enfin dans sa voix,
oui,
dans sa manière d'être,
dans sa façon d'évoquer les lieux, le lieu, hein,
tout
aussi,
à fait, oui,
et de le construire en même temps, c'est ça qui est assez magique. Je crois que c'est un spectacle qui va rester beaucoup gravé dans les mémoires.
Tout à fait, j'en suis persuadée. Et puis donc pendant que je la regardais, je me dis, mais c'est vrai que parce qu'en fait Emmanuel, c'est une création, le spectacle d'Emmanuel Egarmont, c'était la première hier soir, donc j'avais assisté à un filage il y a deux jours, et le filage n'était pas très très bon, il y avait eu des problèmes techniques, il était très tendu, donc j'avais vu pas tout à fait un bon spectacle, j'ai envie de dire, enfin quelque chose qui n'était pas terminé plutôt, enfin avec une certaine tension. Et en fait je découvrais le spectacle en même temps que les spectateurs, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est un univers très masculin, avec une pensée, une solitude, mais qui est très masculine, c'est-à-dire les journaux, les livres, la télé, une austérité, et puis Oui, qui fait penser plus à la solitude de certains poètes du début du siècle. Je pensais à Baudelaire ou même un peu plus, enfin des poètes comme Paul Celan ou qui ont une sorte de nostalgie qui est très masculine finalement. Enfin, que, parce que chez la femme, il y a toujours finalement un espoir quelque part. Enfin, c'est notre nature, je crois. Et là, il y a, c'est vrai que quelque part, Emmanuel laisse très très peu d'espoir.
Alors samedi, j'ai eu l'occasion de diffuser un reportage que j'avais fait sur son travail à la Maison Folie d'Oisem, et donc une demi-heure, une séquence avec la présentation à la fois des élèves des collèges de l'Homme, si ma mémoire est bonne, qui l'avait accompagné dans cette expérience, et puis aussi ses propos sur le spectacle qu'il préparait il y a 2 mois à l'époque, et confronté à cette réalité du spectacle d'hier. On est évidemment dans un élément différent, vu qu'hier c'était un solo. Alors ce que j'avais vu, le reportage, c'était des classes complètes. Là on est dans la création d'un solo qui, en même temps, plus qu'un solo, je veux dire, c'est un solo très solitaire, où la solitude est l'élément clé de ce travail. Et donc on ressent bien à la fois sa capacité de danseur. Je trouve qu'il a des qualités extraordinaires.
C'est un magnifique interprète, oui.
Et sa volonté. Alors, je vais quand même demander, par rapport à ce spectacle, je sentais des éléments un peu isolés, en même temps que son isolement à lui, mais l'ensemble de la pièce est fait d'éléments, pas juxtaposés, mais pratiquement, et l'occupation de l'espace aussi est décalée. Et il a dit que c'est vraiment sa volonté de ne pas faire un tout avec une trame qui emmène le spectateur d'un élément à l'autre, mais d'isoler aussi les éléments dans sa solitude à lui.
Tout à fait, oui. Et Emmanuel, c'est vraiment quelqu'un qui est très attachant, je trouve. Et donc c'est vrai que moi, je lui ai fait confiance, et j'ai pas été du tout déçu par son travail d'hier soir. Je trouve que c'est quelque chose de très construit, et c'est assez surprenant pour quelqu'un qui a 23 ans, et à la fois c'est donc je le connaissais en tant qu'interprète, et je savais que c'était un magnifique interprète, et je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à dire au niveau de la chorégraphie, et même si on sent des fragilités, une certaine naïveté dans le spectacle, on peut pas le reprocher à quelqu'un qui a 23 ans. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir d'accompagner Emmanuel dans cette démarche de création de compagnie, et on est très heureux d'être coproducteur sur sa première chorégraphie.
Alors vous aurez l'occasion, si vous l'avez manqué hier, de le retrouver à la Maison Folie d'Oisem vendredi à 20h.
Alors, il y a un changement d'horaire. Oui, alors, tout à fait, c'est 22h45. Oui, parce que le spectacle de Cookie Jerez, donc à The Real Fiction, nous a donné plus de difficultés techniques que prévu, et donc on est obligé de le faire passer en premier temps, parce que pour des raisons juste techniques, et donc c'était moins compliqué de démonter Cookie Jerez pour installer Emmanuel Guermont que faire l'inverse.
D'accord. Voilà. Donc voilà, inversion de programme pour une soirée qui s'annonce intéressante. Alors, on va rappeler dans l'ordre, on reviendra donc sur ce programme de vendredi. Sachez que ce soir, donc, il y a une présentation assez complexe en partenariat, donc Latitude Contemporaine et le Frénois.
Tout à fait.
Ça se passe à la condition publique, si ma mémoire est bonne.
Oui, c'est bien ça.
Donc je ne me tromperai pas, ce sera. Ça va. Je vois la route.
Bon, ben ça, très bien. Ouais. Et donc c'est dans le cadre de Panorama 8, donc qui est la grosse exposition de fin d'année de l'école du Frénois. Le résultat de toutes les créations des artistes qui sont en résidence là-bas. Donc en fait, cette année, 4 équipes artistiques ont souhaité faire un travail autour de la chorégraphie ou de la performance, Et donc, comme on avait déjà eu un partenariat avec le Frénois l'an dernier et que ça s'était plutôt bien passé, l'équipe du Frénois est venue me demander si on serait d'accord de présenter ces quatre créations dans le cadre de l'attitude contemporaine. Et c'est vrai que les activités du Frénois sont assez corollaires de un peu l'identité du festival d'attitude, donc il y a une certaine logique de cette collaboration. Et donc je ne peux absolument pas parler des spectacles dans la mesure où ce sont des créations et que là je n'ai même pas pu assister à une répétition, donc je vais découvrir avec le public.
Samedi on a eu l'occasion à Radio Campus dans le cadre du magazine donc qui était animé par Françoise Objoie de découvrir un chorégraphe de cette programmation de ce soir. Donc ça démarre à 19h30 je
tout
crois.
Tout à fait, oui, puisqu'il y a quatre spectacles qui s'enchaînent. Donc pour des raisons de timing, la soirée commence à 19h30.
C'est assez, je crois que c'est assez complet le... Non, c'est pas complet.
C'est complet.
voilà.
Donc, oui, on a une liste d'attente énorme avec
donc soyez patient, sinon revenez l'année prochaine.
Tout à fait.
C'est un peu dommage d'ailleurs que ces quatre présentations de ce soir ne soient pas produites plusieurs fois.
Mais c'est toujours les difficultés d'abord économiques, parce que passer deux fois, ça veut dire qu'on maintient toute une équipe technique, toute une équipe artistique, et que l'équipe du Frénois, pour présenter ces quatre spectacles ce soir, qui sont des créations, donc ce sont des choses très lourdes, mais c'est une production qui réunit à peu près 40 personnes. Donc les artistes travaillent au Frénois depuis maintenant, travaillent au Frénois depuis un moment, mais sont à la condition publique depuis maintenant presque 4 jours. Donc ça veut dire que c'est vrai que c'est très lourd financièrement d'avoir quasiment une quarantaine de personnes en production pendant quasiment une semaine. Donc c'est la difficulté toujours.
Voilà, voilà, vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM. Nous sommes avec Maria Carmela Amini, donc directrice artistique du festival Latitude Contemporaine, dont Radio Campus est partenaire, et qui se déroule jusqu'au 23 juin. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas fini du tout, puisque nous abordons maintenant les prochaines étapes auxquelles vous êtes bien sûr invitées. Donc, Maria Carmela, qu'est-ce qu'on pourrait annoncer là pour les prochains jours?
Alors, comme nous le disions tout à l'heure, il y a The Real Fiction de Cookie Jerez le vendredi 22. Donc Cookie a fait un travail sur le re-questionnement de tous les codes de théâtre, de représentation, etc. Et en fait, elle travaille un petit peu comme l'a fait Thierry Bay qui était en ouverture du festival et dans le Journal d'inquiétude où il traite du mensonge, de la supercherie, etc. Cookie le fait de manière totalement différente. Et le public, en fait, à un moment, je pense, ne saura plus ce qui est le vrai du faux et qui sont les vrais interprètes et qui sont les faux interprètes. Donc, elle envoie plein de fausses pistes. Et c'est vrai que à un moment, on ne sait plus ce qui est... Et même au niveau des interprètes, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui sont les vrais interprètes.
D'accord.
Donc elle casse vraiment tout ce qui est
repère, du
spectateur. Et c'est très drôle, très très drôle.
Alors elle vient de Madrid, c'est ça?
Tout à fait, oui. Donc c'est une
Espagnole. Comment ça se décale par rapport par exemple à Lisbonne? Il y a une autre esthétique, il y a une autre dimension?
Bien sûr, je pense que dans un moment où une période où on parle beaucoup d'identité, défense d'identité, etc. Enfin bon, avec parfois certaines paroles, je dirais même extrêmes, hein, qui sont parfois pas tout à fait entendables, j'ai envie de dire. Mais je crois que les artistes prouvent qu'on n'a pas besoin de revendiquer une identité. Elle est de fait, je veux dire, à partir d'un moment où on est dans un pays, où on travaille dans un pays, où on est habité, nourri d'une culture, cette identité, elle est là de fait. Et je trouve ça assez dangereux quand on essaye de défendre cette identité. On n'a pas à la défendre, elle est là et on a à la dire, on a à la montrer. Mais je me méfie des gens qui essayent de défendre des identité. Et donc pour rejoindre ce que vous disiez, c'est vrai que quand on regarde le travail de Claudia Diaz, on sent toute le poids culturel, historique du Portugal, qui est encore lourd et chargé. Et puis quelque part, dans le spectacle de Cookie Jerez, c'est une sorte de joyeuseté hispanique quelque part, et avec des interprètes très très drôles. Et j'aime beaucoup travailler avec les Espagnols parce qu'ils ont toujours ce côté
explosif.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est eux. Enfin, je veux dire, c'est vrai que on va dans un restaurant espagnol, on s'entend pas, quoi. Enfin, et c'est comme ça. Enfin, y a rien à faire. Donc, et j'aime bien aller chercher aussi des artistes dans ce qu'ils ont de singulier à cet endroit-là aussi, dans ce qu'ils les construisent et ce qui les nourrit de leur identité, mais sans pour cela le revendiquer par des positionnements politiques X ou Y.
Donc The Real Fiction, c'est donc de Cookie Jerez, donc vendredi. Alors on a dit que c'était décalé au niveau de l'horaire, donc
oui,
c'est à...
tout à fait. Donc c'est à 20h, et donc c'est Emmanuel Eguermont qui est reporté à 22h45.
Alors les instants critiques qui sont régulièrement présentés à la suite, soit le lendemain, ça se passera quand pour Cookie?
Donc pour ces deux artistes, donc Cookie Jerez et Emmanuel Eguermont, l'instant critique aura lieu à 19h à la brasserie de la Maison Folie d'Oisem. Étant donné que les spectacles sont assez longs, enfin en tous les cas la soirée est assez longue, avec un spectacle à 22h45, on imagine que les gens ont déjà beaucoup de choses dans leur tête pour essayer encore d'avoir de la nourriture intellectuelle avec l'intervention des artistes dans ces instants critiques.
Alors les instants critiques public, c'est l'occasion, bien sûr, à la fois à quelques personnes connaissant bien la danse, on va dire, et puis aussi au public d'intervenir, de poser des questions. Hein. C'est
tout
vraiment le
fait,
moment
oui.
de le faire.
Oui, oui, tout à fait.
Voire de balayer certaines imprécisions ou certains doutes.
Mmh, absolument. Oui, c'est vraiment un endroit de liberté pour le public. En plus, on l'a au niveau la composition, enfin, elle-même de la soirée, enfin, de cet événement Instant Critique, on l'a voulu complètement presque famille, enfin, c'est-à-dire que ça se passe à la brasserie, les gens sont assis à des tables avec des verres et puis ça se passe un peu de manière très conviviale, sans barrière, les gens peuvent prendre la parole quand ils le souhaitent et puis donc c'est vraiment un endroit de discussion avec, et de liberté de discussion.
Cette année, le son est bon.
Merci.
Donc, j'ai bien sûr enregistré quelques instants critiques. Nous aurons l'occasion de les diffuser par morceaux à l'occasion d'émissions sur Radio Campus, partenaire donc du Festival Latitude Contemporaine. On va parler donc, on était aux instants critiques de samedi. On va parler maintenant de la soirée du samedi avec donc qui est consacrée à Benoît Lachambre. On peut peut-être présenter Benoît Lachambre.
Alors Benoît Lachambre est un chorégraphe canadien qui tourne dans le monde entier, enfin qui est un des un chorégraphe très reconnu aujourd'hui et qui travaille avec des gens comme Meg Stuart ou comme Maggie Marin ou comme également Mathilde Monnier. Donc ce sont des gens, enfin c'est une personnalité hein, de la chorégraphie contemporaine qui est souvent présent dans des lieux comme le Théâtre de la Ville ou des lieux assez prestigieux dans le monde entier. Et puis, en fait, Benoît, je l'accompagne depuis un certain temps. Enfin, c'est quelqu'un à qui je m'intéresse depuis un certain nombre d'années et à tel point qu'il est dans notre bureau de production aujourd'hui puisque c'est le bureau Latitude Prod qui est en charge de sa diffusion en Europe, en tous les cas. Donc là, dans cette soirée spécial Benoît Lachambre, il présentera 4 solos qu'il n'a jamais présenté dans la même soirée. C'est-à-dire que même moi, ce sont des solos que j'ai vus un par un.
Ce sont des solos où il met en scène, en jeu, d'autres personnes, enfin des personnes différentes.
Tout à fait. Donc ce sont 4 solos de 4 interprètes et aussi chorégraphes. Ce sont aussi des femmes qui font ces deux métiers. Et donc. À chaque fois, j'ai voulu rassembler ces 4 solos parce qu'ils racontent une histoire très différente à chaque fois. Et donc, il y en a un que j'ai vu au Théâtre des Abbesses à Paris, l'autre je l'ai vu à Brest lors des Antipodes, l'autre en Belgique, je ne sais plus dans quelle salle, un autre que j'ai vu en Allemagne. Et et c'est vrai que quand j'ai vu le dernier, donc qu'il s'agissait du solo de Louise Le Cavalier que j'avais vu aux Abbesses, j'ai eu un flash, je me suis dit il faut vraiment que j'arrive à réunir ces 4 solos dans la même soirée et que Benoît, enfin que le spectateur puisse rencontrer à la fois le travail de Benoît mais aussi ses 4 interprètes.
Alors on va parler des 4 interprètes, il y a qui donc?
Alors il y a Anna Edman qui est une interprète et chorégraphe allemande, Saskia Rublin qui est également allemande, Marion Ballester qui est une très très jeune interprète très belle, enfin vraiment magnifique, et Marion Ballester donc qui est aussi un peu performeuse et donc là elle est chorégraphiée par Benoît, et puis Louise Le Cavalier qui est une interprète extrêmement reconnue par tout le monde de la danse, enfin, c'est une figure emblématique de la danse, enfin, voir Louise Le Cavalier danser, c'est comme voir une danseuse étoile dans la danse classique, on va dire.
Voilà, donc cette belle soirée est prévue pour samedi à partir de 20h.
Tout à fait. Hein,
donc les 4 spectacles. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a encore de la place là ?
Un tout petit peu, mais vraiment il faut se dépêcher. D'accord. Parce que je sais que c'est assez chargé maintenant au niveau du public.
Donc la semaine prochaine, 17h, eh bien, nous accueillerons François Frima, qui est président donc, de Latitude Contemporaine, pour un bilan de l'ensemble de ces manifestations. Oui. Merci beaucoup et très bonne journée, Marie-Carmela.
Mais c'est moi qui vous remercie.